Doc Leipzig, the oldest festival for animation and documentary in the world, is happening in a hybrid format in 2020. We're embracing the opportunities that come along with it. Welcome to the new Doc Industry Program podcast, realized in collaboration with What's Up with Docs, the Programmers of Color Collective, and independent film industry curator Temba Bebe. Welcome to a series of discussions on subjects such as story sovereignty, diversity and inclusion in the documentary industry, and decolonizing our industry in general. These podcasts are funded by Creative Europe, the City of Leipzig, the BKM, and MDM. We thank our partners and supporters for their contributions. Enjoy.
Alors, à nos côtés aujourd'hui pour ce podcast Female Gaze, Eusanne Palsy et Alice Diop, deux cinéastes émérites que je suis vraiment ravie de réunir à l'occasion de ce podcast. Alors d'un côté, Eusanne Palsy, née en 1958 en Martinique, diplômée de l'école Louis Lumière de Paris, qui a réalisé en 1983 son premier long-métrage de fiction Rue Cazenègre, suivi en 1989 d'une saison blanche et sèche, produit aux États-Unis, puis en 1992 de Siméon, et de beaucoup d'autres films par la suite. À ses côtés, Alice Diop, née en 1979 à Vincennes, en France, diplômée d'un DESS Images et Sociétés de la faculté d'Evry. Elle a réalisé plusieurs documentaires, notamment Les Sénégalaises et la Sénégaloise en 2007, La mort de Danton en 2011, Vers la tendresse en 2016, La permanence également en 2016, et vient de terminer la post-production de son prochain long-métrage documentaire, Nous, en 2020. Alors, il y a beaucoup de choses qui vous réunissent, même si vous êtes nés à des endroits différents, si vous avez grandi à des endroits différents. D'abord, il y a le cinéma, il y a la réalisation de films, et puis un autre événement qui s'appelle la cérémonie des Césars, puisqu'en 1984, Eusanne Palsy remporte le César de la meilleure première œuvre avec son premier long métrage Rue Cazenègre. Je vous propose d'écouter un extrait.
La gagnante et Eusanne Palsy pour Rue Cazenègre. Elle brille autant que le César.
J'essaierai de dire quelques mots. Je voudrais, au nom de tous les miens, remercier tous ceux qui ont cru en moi et qui ont permis que ce film existe. Je veux parler de mes techniciens et de mes producteurs. Je remercie tout particulièrement les acteurs du film, la Martinique, pour sa contribution multiforme. Et puis, Monsieur Joseph Zobel, l'auteur du roman Rue Cazenègre, pour m'avoir fait confiance.
Alors, Eusanne, je vous ai replongé dans le passé, mais racontez-nous un peu cette époque. Alors, elle vous fait quand même la remarque, elle brille autant que le César. Donc, ce qu'on oublie de préciser, c'est quand même que vous êtes la première femme, du coup, à recevoir un César dans cette académie très prestigieuse de l'industrie du cinéma français. Si vous vous replongez à cette époque-là, qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Est-ce que vous vous attendiez à recevoir un prix ce soir-là?
Ben, en fait, ça a été une grosse surprise parce qu'il y avait d'autres candidats, il y avait d'autres très bons films. Et bon, avant ça, le film a reçu quelques prix à Venise, dont le Lion d'argent et le prix d'interprétation féminine pour Darling Legitimus, la grand-mère, et trois autres prix. Donc, c'était formidable pour moi parce que ça a été la réalisation de ce film, la production, ça a été le parcours du combattant parce qu'en fait, personne ne voulait comme je dis toujours, de mon bébé. Hein, il était trop noir, il n'y avait pas de star. C'était très dur, très, très dur. Et aller à Venise, bon, le Festival de Cannes n'en avait pas voulu d'ailleurs, même pas visionner le film, etc. Et quand Venise arrive et que Venise sélectionne le film dans la sélection officielle, c'était pour moi déjà le prix. comme je le disais d'ailleurs à François Truffaut, qui m'a beaucoup soutenu et qui est devenu un peu mon parrain, je lui disais que, bon, ben voilà, on va à Venise. Bon, je sais je pense qu'on n'aura rien, mais je vais avec toute ma petite équipe, Zobel, le gamin du film, sa mère et toute une équipe autour de moi pour voir Venise et puis voir les films et participer à cette cérémonie. Alors je parle, avant de répondre, arriver aux 6 heures, c'est important que je dise ça. Donc, comme personne ne voulait du film et que Venise ouvrait les portes au film, pour moi, c'était ça le prix. Même si on n'avait rien, ce n'était pas grave. Le prix, c'était déjà être dans la sélection. Et ça me suffisait. J'étais ravie. Bon, avec tous ces prix de la Mostra, bon, ben, je ne m'attendais pas du tout à grand-chose des Césars. Et il se trouve que, ben voilà, Louis Cazenègre a obtenu ce César. Et sincèrement, ça a été une grosse, grosse surprise pour moi. Et j'étais très heureuse parce que, justement, François Truffaut, qui était très malade et qui recevait aussi un César pour sa carrière, quoi, était dans la salle. Et voilà, donc... ça a été un grand bonheur pour moi et pour la Martinique, pour toute la diaspora, pour l'Afrique, pour tous les jeunes réalisatrices et jeunes réalisateurs. C'est ainsi que je l'ai vécu, en tout cas. Je l'ai pris, j'ai accepté ce César comme, voilà, avec cette émotion-là, quoi.
Est-ce que la sélection à Venise a opéré un changement par rapport à l'industrie française, justement ? Est-ce qu'on vous a regardé différemment du moment où le film a été sélectionné là-bas ?
Je dois dire que grâce à la sélection de Venise, grâce au prix, effectivement, obtenu à Venise, le film est parti comme une flèche. Ça a été pour moi, toutes les portes au niveau de la distribution, c'est pareil. On nous donnait des salles, comme disait Claude Nedjars, père à son âme, cet distributeur extraordinaire qui adorait les films de femmes qui grâce à lui ce film a existé. On ne lui proposait que des salles dites de ghetto, les salles dans le coin là où, voilà, bon, où se trouve et lui voulait des salles ces salles-là, mais avec en plus les Champs-Élysées, d'autres salles, quoi, une distribution normale comme les autres films. Et ça a été un combat. Et grâce à Venise, on lui a dit, bon, mais oui, bien sûr, voilà, on lui a ouvert toutes les portes, etc. Et on voulait même lui donner une vingtaine de salles. Il a dit, non, 12 salles, ça me suffit. Voilà. Et c'est ainsi que le film a pu être partout. Et bien sûr que tous ceux qui n'avaient pas cru en ce film ou en moi, parce que j'étais jeune, j'arrivais, femme. Bon, c'était la première fois qu'un film de ce genre arrivait sur les écrans. Je pense qu'ils ont reconsidéré les choses, puisqu'ils sont revenus vers moi pour me proposer, oui, alors, et votre prochain film, voilà. Mais ils voulaient surtout un Rue Cazenègre numéro 2. Alors moi, je dis, c'est pas Dallas, hein, c'est pas... Enfin bon, je ne fais pas de numéro 2, chacun fera le numéro 2 dans son quotidien, mais j'ai d'autres projets, voilà.
C'est très intéressant. Et après vous, donc, d'autres femmes ont remporté des Césars, et puis 33 ans après vous, en 2017, c'est Alice Diop qui monte sur scène au César. Alors elle remporte étonnamment, puisqu'elle a fait des longs métrages, mais c'est pour un court métrage qu'elle remporte un César du meilleur court métrage ex aequo avec la réalisatrice Maïmouna Doucouré. C'était en 2017, le film s'appelait Vers la tendresse, et je vous montre un extrait.
Je voudrais dédier ce César à d'autres jeunes garçons dont les voix portent peu, pas assez, et certains même plus du tout. Donc je voudrais dédier ce César à Théo Louaka, à Adama Traoré, à Bouna et Ziyad Bouna, à Lamine Dieng, à Amine Ben Tousni, à Issam Wissam. Voilà, je suis désolée si j'ai écorché leur nom, mais c'était important pour moi de les nommer ce soir. Merci beaucoup.
Alors Alice, même chose, comment on se sent dans cette salle, cette effervescence, tous ces gens en costard-cravate et quand on entend soudain son nom, et en plus, pour la première fois, un double prix, et il se trouve qu'en plus, c'est deux cinéastes femmes et deux cinéastes noirs.
Moi, je voulais déjà te dire à quel point ça m'émeut de voir ces images de ton César, Eusanne. que je n'avais jamais vues. Je n'avais jamais vu ces images. Et je pense que si je les avais vues, si j'en avais eu connaissance, enfin, je savais que tu avais eu un César, mais moi, pour moi, tu avais une carrière beaucoup plus internationale, enfin, beaucoup plus américaine, en fait. Et je crois que si je les avais vues, ça aurait été peut-être moins surprenant et moins... enfin, moins tout... Enfin, je pense que... Voilà, c'est cette espèce de stupéfaction qui s'est emparée de moi quand j'ai entendu mon nom dans cette salle. J'ai l'impression que je l'aurais négocié différemment. En tout cas, ça m'émeut énormément. Et je voudrais juste raconter une anecdote qui, depuis un an, est quelque chose qui me questionne beaucoup sur la question de la fabrique de l'exceptionnalité des femmes cinéastes et en même temps la fabrique de l'exception. Tu sais, quand on s'est rencontrés l'année dernière à Locarno, tu m'as parlé du film Losing Ground en me disant, mais là, le film, il passe à 14h, tu faut absolument que tu ailles le voir, c'est Kathleen Collins, c'est une femme qui a été hyper importante pour moi, machin. Et je n'avais jamais entendu parler de Kathleen Collins, je n'avais jamais entendu parler de Losing Ground. J'ai été voir le film Losing Ground, j'ai été complètement sidérée, émue, bouleversée, touchée par le film, mais extrêmement en colère de n'avoir jamais entendu de ma vie le nom de cette femme. Et je trouve que voilà, qu'en fait, c'est hyper important qu'entre nous, on soit des passages de relais. C'est-à-dire que moi, à chaque fois qu'on me parle de mon César, je rappelle en permanence que tu étais là avant. Et pour moi, c'est hyper important parce que si les critiques de cinéma, si les cinéastes français, en fait, cultivent cette cécité, et en fait, quelque part, je m'interroge aujourd'hui sur la nécessité pour ce système du cinéma français, de cultiver l'effacement, en fait, de toutes ces voix minoritaires qui, à un moment, se sont élevées et qu'on a éteint, parce que finalement, c'est des films qu'on n'a pas circulé, c'est des films qu'on ne nous transmet pas. Moi, je tu vois, quand je vois cette vidéo, je me dis, c'est pas normal que je n'ai pas vu, que je n'ai jamais vu ça. J'ai vu le César de Vanessa Paradis, le César de, je sais pas, moi, ça fait partie de, tu vois, de notre culture commune. Quand Charlotte Gainsbourg est montée sur scène devant son père, enfin, il y a énormément de moments des Césars qu'on nous repasse chaque année. Et c'est quand même une femme noire qui fait, en 1983, qui reçoit le César-là. Je ne comprends pas que chaque année, on nous l'ait pas ressorti, en fait. Et en fait, c'est à nous de le faire. Et vraiment, je trouve qu'au-delà du César, ce que ça raconte, c'est que ce que les autres ne font pas, c'est à nous de le faire. C'est-à-dire de ne pas oublier qu'avant moi, il y a eu Ozan Palsy. Et toi, tu n'oublies pas qu'avant toi, il y a eu Kathleen Collins. Et en fait, cette chaîne-là qu'on constitue ensemble, c'est la seule manière d'exister comme cinéaste, mais de façon pérenne, et de ne pas, en fait, nous laisser effacer par le système. Parce que cet effacement, je trouve qu'il a... En fait, il a une conséquence, et il a des causes politiques, en fait. Il a une raison politique. Et je trouve, voilà, que... Je me souviens de cette conversation qu'on a eue, de cette découverte de ce film. Et vraiment, je te remercie. Et tu ne peux pas savoir comme j'étais en colère de ne jamais avoir entendu parler de cette cinéaste. Quoi. C'est fou.
Mais ça rejoint, comme tu dis, les canaux où on peut voir ces choses-là, où est-ce qu'on peut trouver l'information.
Exactement. Et qui transmet la mémoire de ces choses qui ont été faites par nos aînés et dont on ne savait rien, souvent.
Du coup, raconte-nous alors cette stupéfaction dans la salle quand on t'appelle. Et en plus que vous êtes deux équipes à monter sur scène.
Moi, rien ne me prédestinait à vivre un moment pareil, hein, mais pour plein de raisons, en tant que femme noire, en tant que documentariste aussi. Moi, je n'ai jamais rêvé au César. Enfin, je ne me suis jamais dit... c'était pour moi complètement inattendu. C'était presque un accident. C'était presque un accident, en fait. Donc, je ne m'attendais pas du tout à le recevoir. Parce que j'étais vraiment l'outsider de l'outsider. C'était un court-métrage de 45 minutes entre fiction et documentaire. Enfin, je crois que c'était jamais arrivé. Et le fait de l'avoir avec Memouna, à la fois, c'était quelque chose de magnifique de voir deux femmes noires monter sur scène, deux femmes noires au parcours et au film et aux singularités complètement différentes. Et en même temps, complètement dingue que, tout, justement, au niveau de ça, c'est comme un espèce de papier groupé, quoi. Et c'était à la fois quelque chose qui est une vraie force parce que ça nous permettait de dire, bah, regardez maman, regardez Vers la tendresse, les films n'ont rien à voir. Et pourtant, on est deux à monter sur scène, récupérer ce César. Ça veut bien dire qu'en fait, considérez-nous comme des cinéastes à part entière et non pas comme des porte-étendards d'une cause de la diversité. Et en même temps, le fait que ça ait eu lieu, ça m'a toujours interrogée. Ça m'a toujours interrogée. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Parce que je crois que c'est la première fois dans l'histoire de César que ça a eu lieu. Alors, il paraît qu'on est vraiment arrivé ex aequo, mais je sais pas, des fois, j'en doute. Donc, je me dis que c'est toujours... D'ailleurs, ma langue a fourché, je suis montée sur scène et je l'ai dit. Oui, voilà, c'est parce qu'on est deux qu'on a... C'est une espèce de lot de consolation à deux pour dire, voilà, on a réglé la question de la diversité pendant 10 ans. parce que il s'est rien passé l'année d'après, enfin si, il y a quand même eu l'Algérie et le prix pour les Misérables. Mais en fait, on va plus attendre 10 ans, quoi. C'est-à-dire les Césars ou pas, mais en fait, d'occuper l'espace, on va plus attendre des autres du système, du cinéma français qui nous accorde gracieusement, gentiment une place tous les 10 ans. Non, il faut qu'on inverse le rapport de force, en fait.
Qu'est-ce que vous en dites, Ozan?
Non, mais elle a raison. Et d'ailleurs, je te remercie infiniment pour ces mots, ces beaux et bons mots. Ça fait du bien d'entendre cela. Mais elle a tout à fait raison. Je le dis souvent que je ne me suis jamais sentie aussi seule. Voilà, quand je suis arrivée, c'est vrai que je ne dirais pas la première, il y a eu Safi Faye qui a réalisé aussi des films et qui a disparu comme ça et personne ne parle d'elle. Voilà. Donc, et je trouve ça profondément injuste et parce que c'est vrai que je ne savais pas d'ailleurs que j'étais la première réalisatrice de long métrage à avoir un César. Voilà, je ne le savais pas. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, parce que souvent, je disais oui, effectivement, je suis la première cinéaste noire à avoir eu, première femme noire à avoir eu un César, je disais cinéaste, tout sexe confondu, avoir un César, et ça s'arrêtait là. Et j'ai appris par la suite, que quelques années après, que c'était grâce au Centre national du cinéma qui a sorti un papier, je crois, il y a 3 ans, le jour des Césars. D'ailleurs, je me demande si ce n'était pas une manière de rappeler à l'ordre justement l'Académie pour lui dire attention, voilà, on ne parle pas des autres, mais en tout cas, bon, ils m'ont rendu hommage, effectivement. Et ce que tu dis, Alice, est très juste. J'ai compris très tôt que c'était à nous de faire le boulot depuis longtemps. C'est ce que j'essaie de faire, tu vois. C'est pour ça, quand je t'ai vue, je suis allée vers toi, on a parlé, et je t'ai dit, je t'ai parlé de Kathleen Collins, parce que personne ne parle d'elle non plus. Et aux États-Unis, cette femme, ça a été une battante. Elle était prof, elle enseignait le acting, la mise en scène, etc. Et c'était une femme de passion. Et d'ailleurs, quand j'ai vu un documentaire sur elle qui m'a fait pleurer, mais vraiment, je pleurais pour plusieurs raisons, parce que je me disais, ce n'est pas possible. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais entendu parler d'elle? Tu vois, la même colère dont tu parlais tout à l'heure, hein, mais c'est ça. J'ai eu cette même colère. Et je me dis, mais ce n'est pas normal qu'on n'ait jamais parlé de cette femme. Elle a fait des documentaires, elle a fait ce long métrage. Elle en a fait deux, en fait. Et dans le premier, c'était Losing Ground. Et moi, je ne la connaissais pas. Et le combat qu'elle a mené contre Hollywood pour lui donner la possibilité de faire un long métrage, quoi, un film, c'était horrible. Et deuxième raison pour laquelle j'étais en colère et j'étais triste, c'est parce qu'elle est morte à l'âge de 40 ans. Elle avait un cancer du sein. Donc, elle avait plein de rêves, plein de projets comme ça. Et puis, bon... Ce que tu dis est très juste. C'est à nous de faire ce travail, justement, de passerelle. Et c'est ce que je fais depuis des années. C'est ce que je fais. J'essaie d'aider les jeunes. J'essaie de les mettre en contact. Et parce que je me dis, bon, si nous ne le faisons pas, on sait qu'on ne peut pas compter sur les autres. Donc, il faut d'abord compter sur nous-mêmes. Et puis, les autres, quand la mayonnaise prend... Quand on parle de nous, là, il y a la récupération qui arrive, tout le monde, ah oui, etc. Parce que c'est vrai que personne ne. Y a très, la nouvelle génération ne sait rien de moi. Voilà. Qu'est-ce que tu dis?
Je dis qu'on leur en parle et on est là, on fait le boulot et oui. Tout le monde, on le cite en permanence, quoi. Moi, oui, dès qu'on parle, voilà, de ça, on parle de toi.
Et je vous remercie d'ailleurs de le faire, parce que quand je dis la nouvelle génération ne nous connaît pas, ne sait rien de mon travail, il ne faut pas généraliser, c'est vrai, parce qu'il y a toi et les autres jeunes femmes cinéastes. Les garçons, je ne les entends pas, par contre. Hein, on n'a pas l'impression qu'ils citent jamais les cinéastes femmes. Hein. Je ne suis pas méchante avec eux, mais c'est une manière de leur dire, faites attention, messieurs, parce que nous sommes là et nous parlons de vous quand vous faites un film. Vous êtes nos petits frères, nos jeunes frères, quoi. Et on vous soutient. Et on demande à tout le monde d'aller voir vos films. Eh bien, on aimerait quand même que quand vous obteniez des prix, un César ou un Oscar ou demain, ou je sais pas, quand vous faites un film, que vous saluez quand même ces réalisatrices femmes qui existent, ces jeunes et puis les moins jeunes, quoi. Bref, qui sont arrivés avant vous ou qui sont arrivés, qui arrivent en même temps que vous. Il faut qu'on se tienne par la main, tous. Sinon, on n'arrivera pas, quoi.
Et tout à fait, pour rebondir là-dessus, c'est aussi dans votre travail de transmission, de valoriser les personnes moins vues, non vues, de les ramener sur la scène publique. Je sais que Zane s'est battue beaucoup pour la reconnaissance de Darling Legitimus, qui a quand même été justement oubliée dans une cérémonie des Césars, les hommages aux disparus, etc. Complètement oubliée, alors que son prix d'interprétation, elle l'a eu à plus de 80 ans en Italie, au Festival de Venise.
C'était la doyenne.
Voilà, qu'on oublie.
Lors des Césars 2000, merci de le souligner, lors des Césars 2000, où d'ailleurs un très joli couple de noirs, je dis, a investi la
Ayala et Libre.
Et ils avaient raison. Bon, ça a été applaudi par beaucoup de gens, mais beaucoup ont fait la gueule. Ils n'étaient pas contents. Et il se trouve que leur revendication, elle était totalement justifiée. Puisqu'ils disaient « nous sommes absents, pourtant nous existons ». Et que se passe-t-il? Eh bien, au moment de rendre hommage aux disparus, eh bien, on se rend compte que la doyenne des comédiens, Darling Legitimus, elle était absente, alors qu'elle était morte quelques bons mois avant ça. On l'a oubliée, purement et simplement.
C'est pire qu'oublier, c'est effacer, en fait.
Oui, effacer, occulter. Occulté, voilà.
Et je dirais au même titre que Alice utilise l'espace médiatique pour ramener une parole politique en rendant hommage à tous les hommes à qui tu as rendu hommage. C'est venu spontanément ou tu t'étais déjà dit, tiens, si un jour on me donne la parole, je parlerai d'eux?
Moi, pour recevoir un prix comme les Césars, avoir un tel chambre d'écho à ce moment-là, j'aurais pu remercier mon père, ma mère... Parce qu'effectivement, mes parents sont ouvriers. Enfin, ma mère était femme de ménage, mon père était ouvrier. Mais d'une part, je n'avais pas spécialement envie de rentrer dans ce discours-là, parce que j'ai l'impression que c'était le discours très attendu par les autres aussi. Et j'avais l'impression que la seule manière de dire quelque chose de politique, à ce moment-là, avec ce film Vers la tendresse, c'était de parler de ces hommes-là complètement invisibles et complètement effacés. C'était un peu de mettre un peu un grain inconfortable dans cette soirée mondaine de gens en fait qui sont très loin du réel. C'était de ramener le réel, la violence du réel d'une grande partie de la population française et de leur dire regardez ça quoi. Vous allez manger les petits fours et de champagne, mais pendant deux minutes, j'aimerais que vous rappeliez qu'il y a un hors-champ à cette soirée et que le hors-champ c'est une société française qui permet ce genre de choses. Et ça pour moi. Parce que je suis un peu une emmerdeuse, parce que voilà, c'était un peu ma punchline, quoi. C'était un peu c'était à la fois rendre hommage à ces voix, rendre hommage à ces garçons, parce qu'on parle des femmes, mais les hommes noirs et arabes en France, ils sont extrêmement, extrêmement stigmatisés. Enfin, il y a quelque chose d'un parcours, d'un effacement, d'une invisibilité, ou en tout cas d'un façonnement de leur identité par les autres, qui est tellement violente. Et cette violence-là, elle produit ces choses-là. Elle produit, en fait, ces corps qui sont des corps qui ne servent à rien. Ce sont des corps qu'on peut dégrader, tuer, violer, violenter. Parce qu'en fait, c'est comme si on était construit pour les détester. En fait, c'est une société qui est construite pour les effacer, pour les détester et pour les considérer comme des corps dangereux et dans lesquels il faut se protéger. Et du coup, voilà, pour moi, c'était fondamental de dire ces noms sur cette scène.
Au même titre que, comme l'a cité Eusanne, lors de la cérémonie des Césars 2000, Calix Beyala et Luc de Saint-Éloi sont montés sur scène pour rappeler à l'industrie du cinéma française qu'il y avait des personnes non visibles. On les écoute.
C'est un petit happening.
Eh bien, monsieur, bien entendu, moi je suis...
à transmettre pour ce 25e anniversaire des Césars. Chers amis de la grande famille du cinéma, Alain, bonsoir.
Bonsoir.
Alain Chabat. Madame la ministre, monsieur le président du CSA, monsieur le président du CNC, chers amis, chère France, pardonnez-nous de nous introduire ainsi devant vous. Il est vrai qu'il est rare de voir à cette place des citoyens, issus des minorités visibles. Au nom de 8 ou 10 millions de ces citoyens, au nom de tous les miens, et ce n'est pas un titre de film, au nom du combat juste et légitime que mène le collectif Égalité pour une véritable représentation de la réalité multiraciale de la France dans tous les médias, dans tous les lieux de la culture, nous tenons à vous dire que la situation que nous subissons depuis trop longtemps bafoue toute notion de dignité humaine. Imaginez seulement, imaginez dans ce pays une télévision qui vous transmettrait exclusivement des images de noirs. Imaginez dans ce pays, dans tous les cinémas, des écrans qui projetteraient exclusivement des histoires entre noirs pour des noirs à l'exclusion de toute autre couleur. Imaginez dans ce pays des écrans publicitaires à la télévision, au cinéma, sur les murs de toutes les grandes villes qui vendraient des produits de consommation par des noirs. Pour manger, pour boire, pour se laver, pour se distraire, pour se vêtir, pour dormir, pour éduquer nos enfants, bref, pour vivre. Pour vivre simplement chaque instant, chaque jour, chaque semaine, chaque année. Et cela depuis la naissance de la radio, de la télévision et du cinéma. Et vous, chers compatriotes, imaginez que vous soyez absent, invisible. Imaginez seulement, mais rassurez-vous, ce rôle d'absent, c'est nous qui l'interprétons. Mais ce n'est pas une fiction. Seulement, notre dure réalité est dans un monde de blancs qui exclut toute une partie de la population dont le seul tort est d'être noir ou jaune. Nul ne sort indemne d'un tel scénario.
Il y a assez peu de rebours.
Et nous ne souhaiterions à personne ces exclusions, ces humiliations et ces souffrances.
Bien sûr, Madame la Ministre, l'histoire a fait de nous des sempiternels battus, des sempiternels foutus. Peut-être est-ce la raison pour laquelle vous n'aviez pas répondu à nos doléances. Peut-être est-ce la raison pour laquelle, Madame la Ministre, les modifications de cahier de charge des télévisions publiques proposées par le CSA à travers son président, M. Hervé Bourges, n'a toujours pas abouti à ce jour. Peut-être est-ce la raison pour laquelle la télévision publique nous abreuve de promesses soporifiques. TF1, la première chaîne privée, a essayé déjà de donner le bon ton. Au nom de tous les miens, et ce n'est toujours pas le titre d'un film, je les remercie, car nous voyons en cela leur souci de refléter le vrai visage pluriculturel de notre pays. RFO également, à qui l'on concède une toute petite heure et demie par semaine sur France 3, est sur la bonne voie. Au nom de tous les miens, et ce n'est encore pas le titre d'un film, je remercie du fond du cœur M. Bourges qui a su percevoir notre détresse. Nous sommes ici pour vous dire, et croyez-le, que le cinéma français gagnerait à s'inspirer de la multiculturalité de ce pays au même titre que le cinéma envahisseur américain. Permettez-nous d'espérer que l'année prochaine, il n'y aura pas dans cette salle et dans ce pays un peuple acteur et un peuple spectateur, mais au contraire, un autre scénario qui permettrait à tous de jouer tous les rôles. Au nom de tous les miens, oh, combien aurais-je aimé qu'il ne s'agisse là que du titre d'un film. Mais ce n'est toujours pas le cas. Au nom des grandes valeurs de ce pays, nous voudrions ce soir dédier un César à la doyenne des acteurs noirs français, Darlene Legitimus, prix d'interprétation féminine à la Mostra de Venise, en Italie et pas à Cannes, pour son rôle dans Rue Cazenègre. Elle nous a quittés le 7 décembre dernier. Merci encore, vous pouvez nous couper.
Ouais, c'est fort. Hein.
Et c'était il y a 20 ans.
Eh oui.
C'était il y a 20 ans. C'est fou. Du coup, je voulais vous interroger chacune sur l'impact des Césars sur votre carrière, parce que je sais que Eusanne, le film suivant, n'a pas été tourné en France. Il a été tourné produit par les États-Unis, une saison blanche et sèche. Et je sais qu'Alice, en parallèle de ce court-métrage, tu étais déjà en train de finir un long-métrage, La Permanence, qui a été primé, qui a été diffusé. Est-ce que vous avez vu justement un changement de l'industrie, tout en sachant qu'il y avait cette prise de parole déjà il y a 20 ans auparavant? Est-ce que vraiment, voilà, est-ce qu'on sort de l'exceptionnalité dont parlait Alice tout à l'heure, ou est-ce que ça a été de toute façon quand même un combat pour mener vos projets par la suite, Eusanne?
Bah, écoutez, bon, je ne peux pas dire que le fait d'avoir eu un César Au niveau de la profession, bon, mais voilà, ça a permis aux gens de savoir qu'une cinéaste noire des Antilles existait, quoi. Voilà. Mais il se trouve que les films que moi je proposais après Oui Case Nègre, les gens continuaient à ne pas les vouloir, ne pas en vouloir, quoi. Et on me disait oui, mais je me souviens, on m'a même conseillé d'aller à la Gaumont pour proposer mes films. Et là-bas, on m'a répondu, on m'a dit oui, mais bon, il n'y a pas de happy ending, etc. Je me suis dit, mais attendez, mais j'ai l'impression d'être aux États-Unis quand j'entends ce genre de choses, happy ending. Bon. Et très, très tôt, j'ai compris qu'il fallait que je réfléchisse différemment et que j'essaie de répondre aux autres demandes qui venaient de l'extérieur, ce que je ne voulais pas faire, que j'avais bloqué pendant des années. Bon, en tout cas, je dirais que ce qui m'a davantage aidé, ce n'est pas le César, c'est Venise. Vraiment, je le dis très sincèrement, c'est Venise. Parce que ça a fait tellement de bruit, justement, que j'ai... C'est ainsi que les Américains m'ont appelé. Je les appelle des Américains, pas parce que j'avais eu le César, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait différent, je n'en sais rien. Mais à l'époque, peut-être parce que c'était quelque chose de tellement inattendu, de tellement... Ça a été peut-être un choc pour beaucoup de gens, une surprise. C'est tout.
Alice ?
Moi... C'est très ambivalent l'histoire des Césars dans mon parcours, parce qu'encore une fois, je viens d'un cinéma assez marginal, un cinéma documentaire où il y a beaucoup moins d'enjeux d'argent, beaucoup moins d'enjeux de représentation. En tout cas, on est un peu les parents pauvres du cinéma. Enfin, et du coup, j'ai l'impression que vers la tendresse est arrivé en fait après un parcours mais construit vraiment dans la discrétion et dans à partir de mes films, mais qui en fait ont amassé un public de plus en plus nombreux, mais à partir d'une démarche documentaire que je mène depuis 15 ans. Et j'ai l'impression, en fait, quand j'ai eu le César de Vers la Tendresse, c'est vrai qu'il y a eu tout d'un coup, les gens se disaient, mais c'est qui cette fille, on l'a jamais vue, alors que je ne peux pas avoir une reconnaissance dans le milieu du documentaire, et pas qu'en France, mais aussi dans des festivals étrangers où mes films ont circulé. Mais c'est vrai que le milieu de la fiction, il y a un tel mépris pour le documentaire que en fait, ils m'ont vu arriver comme ça, alors que j'avais déjà 37 ou 38 ans, j'étais pas, ou un peu moins, mais et en disant, mais c'est qui cette fille noire, qui, qu'est-ce qu'elle va faire, etc. Donc, il y a eu un peu un frémissement, on va dire, que j'ai négocié en retournant dans ma grotte. C'est-à-dire que j'ai eu énormément de propositions après les Césars que j'ai pas voulu accepter. Parce que j'étais en train de faire un film documentaire qui, moi, est très important et qui m'a mobilisée pendant 3 ans. Et je suis très contente de ce film que je viens de terminer, là, nous. Et du coup, ça m'a remis dans une espèce de discrétion, d'invisibilité. Je suis retournée un peu dans la marge et dans la grotte. Et en fait, c'est pendant ces 3 années où j'écrivais, où je tournais mon film, que j'ai écrit une fiction. Qui, quelque part, a obtenu énormément de financement. J'ai eu l'avance sur recette, j'ai un financement d'Arte, le film s'est très, très, très bien financé. Alors, il s'est très bien financé parce que sans doute que les financeurs sont plus attentifs à mon travail parce que le César, mais je crois qu'il s'est aussi bien financé parce que j'ai mis plus de 3 ans à écrire le scénario. Et donc, j'ai l'impression que j'ai refusé de capitaliser tout de suite après les Césars en répondant à des propositions alléchante mais qui ne me correspondait pas. Et en fait, je fais le film là, 4 ans après les Césars, en fait, qui est un film naturel, qui correspond exactement au film que j'aurais fait naturellement si je n'avais pas eu le César. Donc, c'est que, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais effectivement, il y a un financement. Je constate là, par la première fiction que je vais m'apprêter à tourner l'année prochaine, que le financement s'est fait de façon assez fluide et assez facile. Mais j'ai l'impression qu'il y a une conjonction d'un beaucoup de facteurs. C'est que il faut quand même le reconnaître, une prise de conscience dans les institutions publiques de cette nécessité en fait d'élargir les récits, même s'il y a encore des résistances, parce que c'est élargir les récits Après, c'est quel type de récit, mais en tout cas, voilà, on sent qu'il y a une volonté quand même d'élargir ça. Donc, j'arrive, en fait, comme Emouna, comme Ladj, comme aussi dans cette prise de conscience politique. Et du coup, je pense plus que le César, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Maintenant, quand je vois la cérémonie de l'année dernière avec Aïssa Maïga, devant cette salle stupéfaite, gênée, mal à l'aise, je ressens exactement la même chose il y a 20 ans. Elle disait quasiment la même chose. Et je me dis, c'est pas... Enfin, quand je vois les visages de ces réalisateurs, de ces scénaristes, je me dis, mais en fait, la vérité, c'est que c'est pas à eux d'aller façonner nos récits. En fait, c'est à nous. Et je pense que la question, c'est... Où sont les réalisateurs, où sont les scénaristes qui vont rentrer dans les écoles du cinéma ou à qui on va donner les moyens et les outils de colorier en fait cet imaginaire de la société française. J'ai l'impression que pour moi l'enjeu il est vraiment là quoi.
J'aimerais ajouter quelque chose.
Ah non. Oui. Oui.
Voilà, j'aimerais dire que. Le César, effectivement, donc en ce qui me concerne, ça ne m'a pas aidé à financer mes autres films. Par contre, il ne faudrait pas dire que le César ne serve à rien. C'est faux, ce serait un mensonge. On ne peut pas dire ça. Hein. En tout cas, moi, je sais que ça, pour d'autres, ça a ouvert des portes, on les a appelés, on a financé leurs films, etc. Voilà. Alors, maintenant, pour nous, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, je pense que les gens sont plus ouverts. Il y a plus d'ouverture aujourd'hui, certainement. Si tu as un César, alors tout de suite, tu existes parce que tu as un César et on va t'inviter partout. Tu vas faire toutes les télés, on va t'inviter, mais dans toutes les cérémonies culturelles, on va t'appeler, etc. Voilà. Donc, et les gens ils seront beaucoup plus ouverts à tes prochains films. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Alice.
Oui, c'est-à-dire, moi, j'ai senti cette opportunité très grande que ça ouvrait parce que tout d'un coup, ils découvraient des femmes cinéastes noires qu'ils n'avaient jamais vues. Donc, je pense que et pour Mémouna et pour moi, ça a eu forcément un impact. Mais sauf que moi, je ne l'ai pas négocié directement. C'est-à-dire que j'ai continué mon chemin, en fait. Ça m'a... Et c'est parce que chaque cinéaste aussi a son trajet. Et en fait, le César, moi, j'ai l'impression qu'il fait partie d'un accident, enfin, qui est un accident heureux et magnifique, hein, vraiment, je pense qu'il y a vraiment un avant et un après, je pense, dans la réception de mon travail. Mais je ne l'ai pas complètement, je ne l'ai pas négocié, moi, directement après. Donc, au fil des années, j'ai l'impression que ça s'est un peu effacé aussi.
Justement, ça pousse vers la question suivante que j'avais prévue, c'était quand on vient de l'art, qu'on a une vision artistique et qu'on se confronte à l'industrie, comment on fait entendre ou comprendre nos récits ? Et Eusanne, ça m'intéresse aussi d'avoir le point de vue par rapport aux studios américains, quelle est la différence de mentalité ? Et Alice aussi, ce passage du documentaire à la fiction, comment ça s'opère et quelles sont les difficultés rencontrées ou au contraire les ouvertures ou les fausses ouvertures, parce que peut-être que les gens font semblant de vous comprendre, mais en fait mettent des ingrédients qui ne sont pas les vôtres dans ce que vous êtes en train de dire. Eusanne ?
Ben, tu sais, c'est j'ai un parcours assez particulier parce que j'ai eu cette proposition donc en fait j'ai eu les Américains m'ont appelé, j'ai eu plusieurs propositions de la part de la Warner pour pouvoir travailler avec eux, etc., que j'ai rejeté parce que je ne voulais pas au départ travailler avec Hollywood parce que il y a une chose qui m'est toujours restée dans la tête, c'était l'expérience de Diane Curis avec Diablo Mante. Et quand elle est revenue, j'étais bien jeune, quand elle est revenue et elle avait passé un an à Hollywood et elle est revenue, mais vraiment en colère et déçue, elle a dit je ne veux plus travailler avec ces gens-là, etc. C'est pas du tout la même manière de fonctionner. Et c'est vrai, de toute façon, pour les auteurs, pour les réalisateurs, à cette époque-là, c'était ça, c'était complètement verrouillé. Bon, les choses se sont déverrouillées un tout petit peu, mais c'est toujours verrouillé. C'est Hollywood fait cet appel et où tu fais ce qu'on te demande, où tu ne fais pas et où il faut négocier. Bon, en tout cas, je ne mentirai pas. Je dirais que quand j'ai accepté finalement de travailler avec Hollywood, avec ce film Une saison blanchie sèche,
c'est devenant encore la première femme à être produite par un studio américain.
Donc, c'est parce que Robert Redford, mon autre parrain, m'a mise dans l'avion et m'a dit non, je lui ai montré les lettres que m'envoyait la Warner, j'avais 5-6 lettres comme ça, et j'avais dit non. Bon. Et il se trouve que il m'a dit écoute, il faut absolument que tu ailles voir. Voilà. Tu as un projet, une saison blanchie sèche, va les voir. Tu dis oui, tu dis non. Mais you have to test the water first. Ne ferme pas la porte comme ça en disant voilà, pas d'autocensure comme ça. Et je l'ai écouté. Et quand je suis arrivée effectivement à la Warner, eh bien, bon, je ne vais pas refaire mon histoire parce que bon, on n'a pas assez de temps parce que c'est trop long et puis on n'est pas là pour parler de moi uniquement. Mais en tout cas, je prends un raccourci. Bon, j'ai développé le film avec la Warner. Quand Cry Freedom est arrivé, ils ont mis le film dans un tiroir. Ils ont dit deux films sur la partie. Non, ça va, c'est bon. Moi, j'ai dit ah bon, et combien de films avez-vous fait sur le Vietnam et que vous continuez à faire? C'est pas trop, mais quand il s'agit de noirs, l'histoire des noirs, je ne comprends pas. Il y a des gens qui se font massacrer parce qu'ils demandent la liberté et puis leur liberté. Donc, quelque chose de légitime, c'est trop. Je ne comprends pas. Bon, finalement, j'ai réussi à arracher le film. Ce qui est vraiment un tour de force, parce qu'à Hollywood, je vous assure que ce n'est pas évident. Quand un studio dit non à un film, il dit qu'il ne fait plus le film, il le met dans un tiroir, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Il déteste que le concurrent récupère le film pour le faire, parce que si c'est un succès, ils ont l'air idiots. Bon. Mais ça a été vraiment, je crois que c'est le bon Dieu qui justement... A permis ce miracle et j'ai réussi avec ma productrice Paula, on a réussi à arracher le film à la Warner pour aller vers la Metro-Goldwyn-Mayer. Donc, j'ai fait ce film avec la Metro-Goldwyn-Mayer, j'ai fait le film que je voulais faire. Donc, c'est pourquoi je dis que je ne mentirai pas. Et c'est pourquoi je dis aussi que mon parcours, il est très, très atypique, quoi. Et c'est pas une recette que je peux... passer à quelqu'un d'autre parce que c'est totalement une démarche personnelle et c'est un combat personnel. Bon, c'est vrai que j'étais la première femme noire à réaliser un film produit par un studio, mais moi ce que j'ai fait et Alice, c'est vrai que bon, on a ça en commun, nous sommes des guerrières. Et quand je suis arrivée à Hollywood, c'était très clair, j'ai dit voilà, vraiment j'ai besoin d'eux pour faire ce film, sans eux le film n'existerait pas. Mais j'ai très clairement dit, voilà ce que je veux faire et voilà ce que je ne veux pas ou peux pas faire. Et j'ai refusé pratiquement 99%, j'ai refusé de faire des compromis comme ça. Et j'ai toujours fait, et j'ai fait ma carrière, j'ai fait davantage de films aux États-Unis avec les studios qu'en France. Et j'ai toujours fait les films que je voulais faire comme je voulais les faire. Quand je fais Ruby Bridges, par exemple, Disney m'appelle pour réécrire le scénario et réaliser le film. Eh bien, que ce soit Une saison blanchie sèche, Ruby Bridges, que ce soit le film sur les prisonniers d'Attica, The Killing Yard, qui justement raconte cette histoire bien avant Ava DuVernay avec Wendy C, ce que j'aime et que j'adore, qui est très très fort. Eh bien, je veux dire que ils n'ont pas touché à une seule image de mon film. Ils n'ont pas au montage. Il y a ce qu'on appelle à Hollywood le director's cut. C'est-à-dire le montage du réalisateur et the studio cut qui arrive après. Ça veut dire que vous donnez votre bébé, puis après le studio, bon, mais voilà, il regarde et puis il dit, ah ça, non, on va couper ça, on va couper ça, etc. Et vous vous retrouvez souvent avec un bébé démembré, quoi. Voilà. Mais je vous assure que aucun de mes films n'a subi ce sort. Donc, est-ce que c'est de la chance? Je dirais que c'est dû à ce que je suis. Il faut s'imposer, il faut se battre, et il faut surtout, quand on travaille avec les studios, ne pas avoir peur de perdre les choses. Mmh. Ça veut dire que si j'amène, je viens vers vous pour faire un film et que je dis voilà comment je vais faire, etc. Et vous me dites non, c'est comme ça qu'on le veut, etc. Eh bien, c'est à vous de savoir si vous allez faire la carpette et puis faire ce qu'ils veulent et après détester le film et puis à trouver des excuses quand vous présentez le film aux spectateurs et qu'on vous envoie des tomates pourries. Mmh. Vous allez dire ah oui, ce n'est pas de ma faute, hein, c'est le studio. Non. Ou vous dites oui, mais vous allez jusqu'au bout, ou vous dites non et vous vous battez pour faire ce que vous voulez faire.
Alice, ça fait écho ?
Oui, moi je bois tes paroles parce que c'est vrai que c'est précisément en fait à ce tournant-là que j'ai l'impression d'être aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai, comme je le disais, je viens d'un cinéma beaucoup plus marginal, beaucoup plus confidentiel, qui n'en est pas moins important pour moi, le cinéma documentaire, mais voilà, qui n'a pas du tout les mêmes enjeux économiques, qui n'a pas du tout les mêmes enjeux de rentabilité. J'ai toujours fait mes films avec une énorme liberté, mais dans une quasi-artisanat, c'est-à-dire que je faisais tout, et voilà, c'est comme ça que j'ai construit mon travail. Et là, en fait, avec cette première fiction, j'ai l'impression que je rentre dans une industrie, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et c'est vrai que je pourrais répondre à ta question quand j'aurais fait ce passage. Mais j'en suis vraiment à ce tournant. Et c'est vrai que des fois, ça m'inquiète de me dire mais comment garder en fait sa singularité, son originalité, quand il y a tellement d'enjeux économiques, quand il y a tellement de... Quand il y a des gens qui mettent énormément d'argent sur la table. Donc forcément, je me dis là, tout est beau, tout est magnifique. Mais il y a forcément un moment où va se poser la question des compromis possibles ou pas. Parce que je n'ai pas encore vu advenir et j'ai toute confiance en mes producteurs qui m'assurent et qui me garantissent une liberté créative totale. Mais c'est vrai que dans les interactions que j'ai eues avec certains distributeurs, financeurs, vendeurs, etc., je me rends compte que c'est complètement différent là ce qui s'annonce pour moi. C'est vrai que des fois, ça m'angoisse. Donc, je suis ravie que tu me partages cette expérience-là. Ça me donne vachement de force pour me dire qu'en fait, c'est possible de s'imposer et de pas tergiverser sur ce qu'on est, sur ce dont on croit, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut dire. Moi, je peux pas... Enfin, c'est tout nouveau. C'est tellement nouveau pour moi, cette entrée dans le cinéma de fiction et le corollaire de l'industrie derrière, que je pourrais te répondre dans un an ou deux ans.
Et c'est une envie personnelle et profonde de basculer vers la fiction, ou c'est aussi une sorte d'attente de la part de ce milieu de la fiction, documentaire étant un parent pauvre, de basculer vers ça.
Un parent pauvre pour les ignorants. Enfin, moi personnellement, parmi les plus grands films de ma vie qui m'ont constitué, ce sont des films documentaires, et je ne fais aucune différence, mais vraiment aucune différence entre un film nous qui est un film à 200 000 euros et un film que je m'apprête à faire qui est autour de 3 millions. Enfin, moi, c'est exactement la même chose. Enfin, il y en a pas un que je chéris moins que l'autre. Pour moi, le cinéma, c'est le cinéma. Et j'ai pas l'impression de basculer dans la fiction. J'ai l'impression de continuer mon parcours de réalisatrice avec un film qui, là, parce que c'est un procès, parce que c'est qui ne pouvait pas... se raconter à partir du genre documentaire, mais qui devait passer par la fiction pour se dire, mais pour moi c'est une continuité d'écriture en fait. En fait il s'avère que là la fiction est la seule manière de raconter cette histoire. Mais c'est vrai que passer à la fiction, ça change, c'est une économie d'échelle complètement différente, et c'est vrai que ça change complètement les rapports de force, ça change les enjeux, donc tout d'un coup on est attendu, il y a des distributeurs qui mettent un certain nombre d'argent sur la table, donc je ne peux pas ne pas me dire qu'à un moment donné ce retour sur investissement il est souhaitable et comment ça impacte l'écriture, le scénario, le montage. Pour l'instant c'est qu'au stade du fantasme parce que j'ai pas été confrontée à des situations précises, mais c'est vrai que c'est une vraie angoisse pour moi, surtout parce que j'étais toujours très discrète et très... Je travaille dans une économie extrêmement petite et avec des gens extrêmement... Enfin, voilà, c'est complètement différent là des gens que j'ai rencontrés depuis que je suis en tant que financement du film.
Et alors, au-delà de vos... Ah oui, pardon, Ozan.
Moi, ajouter, je dirais à Alice, justement, que tu sais, tu as ô combien raison. Moi, j'adore le documentaire. J'ai appris tellement de choses grâce au documentaire. Et c'est la raison pour laquelle je partage ma créativité entre... il y a la fiction et il y a le documentaire. Tu vois, j'ai fait donc Wicca's Nègre. J'ai fait des films que tu connais. Mais j'ai également fait une série de j'ai fait 3 films, un triptyque sur Aimé Césaire. Mm-hmm. Tu vois, 3 documentaires. J'ai également consacré un documentaire à Césaire et Senghor, l'ami fondamental. J'ai également consacré un documentaire à ces jeunes, à ceux qui étaient à l'époque des jeunes garçons et des jeunes filles des Antilles, qui sont partis tout jeunes, 16 ans, 17 ans, 18 ans, quand à l'appel du général de Gaulle, l'appel du 18 juin, ils ont répondu à cet appel et ils sont partis comme ça en bravant les flots. Il y a plein ont péri dans les canaux meurtriers de la Dominique et de Sainte-Lucie, voilà, dans cette houle, pour aller sauver la France. Et on les a totalement occultés. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est monstrueux, il faut qu'on arrête ça, occulter, oublier, mépriser même, quoi.
Et le documentaire permet de garder une trace.
Voilà. Alors, donc, du coup, j'ai mis de côté les projets que j'avais pendant 4 ans. Je me suis consacrée à ces gens qui était âgé de 82 ans, 82, 85, 80, 90 ans presque, et pour pouvoir leur donner la parole. Et j'ai fait ce documentaire qui s'appelle « Parcours de dissidents », justement. Voilà. Donc, tu vois, et je continue, j'ai d'autres projets documentaires. J'adore le documentaire parce que c'est vrai que c'est le cinéma vérité, quoi. On donne la parole aux autres. Moi, c'est... Tu as raison. Il y a pas de petit, c'est comme je dis, les courts-métrages, il n'y a pas de petits films pour moi et de longs-métrages. Ce sont des films. Tu fais ça avec ton cœur. Et les gens qui... C'est vrai que souvent, quand on venait, vous dites, oui, voilà, je fais des documentaires ou je fais des courts-métrages ou des films de télévision. Les gens du cinéma, vous regardez avec mépris, quoi. Mais c'est fini, ça. C'est fini. Les réalisateurs, aujourd'hui, ils passent de l'un à l'autre. Ils font des documentaires, ils font des longs-métrages. Et d'ailleurs, le documentaire, et comme le court-métrage d'ailleurs, ce sont des écoles. Et c'est beaucoup plus compliqué à réaliser un documentaire et un court-métrage et réussir cela qu'un long-métrage, quoi. Voilà.
Rassure. Et au-delà, du coup, des combats personnels pour réaliser le film qu'on a envie de réaliser, matcher avec l'industrie pour pouvoir justement le distribuer, le diffuser, toucher un large public, il y a aussi le contexte mondial. Alors, on sait qu'il y a eu 2 événements qui nous ont marqués récemment dans l'industrie cinématographique, qui ont bien sûr démarré aux États-Unis. Je pense en 2016 à Oscar So White et en 2017 à tout le mouvement MeToo de violence contre les femmes dans l'industrie. Ça, forcément, ça a un impact, une réaction. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous ressentez cet impact-là, alors soit le besoin de plus de représentation, en tout cas peut-être une meilleure écoute pour avoir des personnes non blanches devant les caméras ou derrière les caméras, soit en tant que femme peut-être plus d'écoute, d'ouverture de la part des professionnels avec qui vous échangez. Est-ce que vous avez vu, vous, une évolution à la suite de ces 2 phénomènes?
Vas-y, Lausanne.
Ben, ça dépend où on se situe, dans quel pays on est. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas vu grand changement en France, hein, sincèrement. Je n'ai pas vu beaucoup de changements. Et Alice me dira si je me trompe. En tout cas, aux États-Unis, et je ne fais pas apologie des Américains, comme j'ai toujours dit, je travaille avec les studios, bon, avec et je travaille aussi, j'ai des sociétés de production aussi en France, donc je ne me suis jamais sentie américaine. On me l'a proposé, Bill Clinton me l'a proposé, j'ai remercié, j'ai dit j'y réfléchirai, et je ne l'ai pas fait. Donc, je préfère dire ça pour qu'on ne dise pas que oui, voilà, elle était aux États-Unis, elle est à Hollywood, elle a oublié. Parce qu'on a vite fait de dire ça. Hein, c'est, voilà, on connaît bien le système. Non. Moi, je dis que, en tout cas, aux États-Unis, je n'ai pas éprouvé ce besoin-là parce que la différence entre la France et les États-Unis, c'est quoi à ce niveau-là? Quand il y a un problème aux États-Unis et que qu'on en parle et que ça va que le net diffuse la chose, donc le monde entier est au courant. Les Américains, si c'est une chose juste, légitime, les Américains ont immédiatement le souci de régler. We got to fix this. We got to fix this. OK? Ils le disent et ils le font et ça n'attend pas. Ça, je le dis, bon, je veux dire que on peut citer plein d'exemples. Donc, c'est vrai que quand il y a eu tous ces mouvements, MeToo, Time's Up, etc., tous ces événements avec ces messieurs, les violeurs et autres, eh bien, les choses ont drastiquement changé. D'ailleurs, ils ont licencié presque tous les têtes, les responsables hommes au niveau des studios ou des productions, etc. Et on les a remplacés par des femmes. Et ils ont fait passer des circulaires, voilà, il faut davantage de femmes et de femmes noires, des gens des minorités, voilà, de latinos, voilà, des minorités au niveau des studios, au niveau des productions, devant et derrière la caméra. Donc ça a été dit et ça continue, c'est pas fini. Et en plus, l'autre événement, il y a la mort de George Floyd, l'assassinat de George Floyd. Qui est venu renforcer tout cela. Alors là, carrément, on assiste aux États-Unis à vraiment il y a une sorte de révolution. On l'a vu d'ailleurs dans les rues. Mais moi, je ne pensais pas du tout qu'un jour dans ma vie, je verrais cela aux États-Unis. Des Blancs et des Noirs et les Latinos, tout le monde ensemble. Mais surtout les Blancs et les Noirs, les voir comme ça, couchés par terre, I can't breathe, comme ça. Et parce qu'il y a eu un wake-up call. Peut-être que c'est le COVID-19 qui a amené ça, qui a permis cela. Voilà. Donc, cette réflexion, parce que voilà, les gens sont chez eux, et puis voilà, ils réfléchissent, ils voient les choses. Et il y a eu un wake-up call. Donc, un sursaut. Et les choses, aujourd'hui, ils donnent des millions de dollars aux jeunes cinéastes noirs, hommes, femmes, etc. Et moi, je veux dire que bon, au cinéaste, jeune ou moins jeune, noir, ils veulent réparer, ils le font. Je veux dire que tous les films que j'ai écrits, tous les scénarios que j'ai proposés, qu'on a refusés pendant des années, par exemple à Hollywood, parce que c'est encore autre chose, eh bien, aujourd'hui, ces mêmes personnes m'appellent. J'ai 6 projets sur la table. Alors, je dis merci. J'ai mes propres projets, ce qui m'intéresse, je vais les faire. Voilà.
C'est génial. Alice, est-ce que tu as vu de ton côté une évolution côté France?
Moi, en fait, je suis très méfiante des déclarations d'intention parce que les déclarations d'intention sont là. Mais quand tu parles, Eusanne, des États-Unis et de, effectivement, la manière dont, en fait, l'argent, le nerf de la guerre, l'argent permet à des jeunes cinéastes de faire carrière, moi, en France, j'ai ce que je disais au début de cet entretien, je me méfie de la fabrique de l'exception. C'est-à-dire que Lajli va effacer Ouda Benyamina. Ouda Benyamina va effacer Rachid Jaidani. Rachid Jaidani va effacer celui d'il y a 4 ans. Et en fait, c'est que, oui, qu'on voit avec Lajli, 2 millions d'entrées, 8 Césars ou 7 Césars à la prochaine cérémonie César qui, en même temps, en fait, donne un César à Polanski. Enfin, je suis ravie pour Lajli, c'est très bien, c'est très fort. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va construire des carrières? Qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans? En fait, est-ce que, en fait, on n'est pas en permanence, en fait, des espèces de portes, de comment dire, de figures qui en fait, qui réjouit tout le monde. C'est-à-dire que tout d'un coup, les 2 millions de Lajli, c'est une grande nouvelle pour nous, c'est une grande nouvelle pour la France, c'est une grande nouvelle pour de nouvelles représentations, un imaginaire différent. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Lajli, en France, dans 15 ans, en fait, il fera une carrière aussi importante que n'importe quel cinéaste français. En fait, c'est sur cette durée-là qu'on peut le mesurer. Et moi, en fait, vu ce qui se passe depuis 30 ans en France, j'avoue que je sens un peu méfiante J'avoue que je suis un peu méfiante. Je me dis, cet effacement de l'autre au profit toujours de celui qui a l'aura du moment, mais qui dans deux trois ans, quand on est passé à autre chose, j'ai très peur de ça en France. J'ai vraiment très peur de ça parce que j'ai l'impression que nous ne sommes pas assez considérés comme des cinéastes et qu'on nous réduit souvent au statut de porte-parole. Et que le fait de nous réduire au statut de porte-parole, moi, je suis très contente de pouvoir parler de la banlieue, de pouvoir parler des miens, etc. Mais j'ai envie qu'on parle de cinéma. Parce que me parler de cinéma, c'est être capable de dire, ton film là, aujourd'hui, par rapport à ton film d'hier, voilà ce qui s'est construit, voilà ce qui s'est travaillé, et avoir des critiques du cinéma en dialogue avec nous qui soutiennent, qui commentent, qui valorisent, en fait, l'œuvre que nous tentons de construire. Et je ne suis pas certaine, en France aujourd'hui, que c'est ça qui soit en train de se passer. D'un point de vue politique, on a vu, moi aussi, le 2 juin, j'étais dans la rue, c'était époustouflant, 45 000, toute la jeunesse de France, des Blancs, des Noirs, des Arabes, criant à l'unisson, justice pour Adama, je ne l'avais jamais vu. Et c'est quoi la réponse? C'est une loi contre le séparatisme. Donc voilà, j'ai l'impression que je ne sais pas si la société française, elle est tellement sclérosée, elle est tellement verrouillée, elle est tellement peu prompte à se regarder en face, elle est tellement peu soucieuse de regarder son réel, que voilà, il y a beaucoup de résistance. Je pense qu'il y a beaucoup plus de résistance en France qu'aux États-Unis, où j'ai l'impression que la question des minorités, la question des quotas, la question de la nécessité d'avoir une représentation qui soit conforme à ce que les États-Unis, en fait, c'est des verrous. Il n'y a pas les verrous culturels et idéologiques qu'il y a en France face à ces questions-là, en fait. Et du coup, c'est certain qu'il se passe quelque chose en France, ça, on ne peut pas le nier. Je veux dire, il y a une émergence d'une jeunesse, de jeunes cinéastes issus des quartiers populaires ou pas que, des Noirs, des Arabes, qui, tu vois, on le voit avec Mémouna, on l'a vu avec Ladji, effectivement, Yaouda. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'ils fassent un deuxième film, puis un troisième, puis un quatrième, et que dans 15 ans, on en soit en fait à analyser des œuvres, à dire, certes, aujourd'hui, ce film de la ville n'est pas bien par rapport à son troisième film. Enfin, qu'on en soit à ce type de discussion et pas que, c'est exceptionnel, il va nous raconter la banlieue, on ne l'a pas vu, nous, on ne peut pas y aller, donc il y a lui qui nous raconte ce truc, mais sans que jamais personne ne parle des qualités cinématographiques de ce film et des qualités de cinéaste qu'on voit poindre à l'œuvre dans le film de la ville et qu'on ne lui parle pas que de va discuter avec l'Élysée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais. C'est vrai que je suis méfiante. C'est vrai que je suis méfiante. Et du coup, je me dis que la seule manière de nous en sortir, c'est de ne pas attendre qu'on nous laisse la place où on veut aller. C'est qu'on la construise ensemble et qu'on la construise en commun et qu'on ne s'arrête pas à un film et qu'on en fasse deux et qu'on s'aide à faire le deuxième et le troisième et le quatrième et que Claire Diao, toi qui es critique de cinéma depuis 20 ans et qui est une des premières à avoir considéré nos travaux, et ben que tu aies les moyens, continue à te déployer, que vous soyez encore plus nombreuses et à regarder nos films comme des cinéastes, parce que ce que tu fais toi, c'est que tu regardes nos films comme des films de cinéma. Tu nous enfermes pas, contrairement à beaucoup d'autres, dans les questions sociologiques ou politiques que soulèvent nos films. Et donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas que des critiques, des cinéastes, des programmateurs de festivals, que c'est tout cet écosystème en fait qui doit bouger. Et voilà, en tant que, enfin, moi, je parle vraiment dans ce qui m'habite le plus, mais quand on voit la cérémonie des Césars de récompenser quelqu'un comme Polanski, est-ce que ce serait possible aux États-Unis aux Oscars? Je ne le pense pas. Je pense que ce ne serait pas possible. Et c'est au-delà on va pas rentrer dans ces débats entre de l'homme et l'artiste, etc. Je pense qu'il y a des forces de résistance en France extrêmement puissante à la reconnaissance et à l'émergence des voix peu entendues, des voix minoritaires. Et je pense qu'on pourra se dire qu'il y a quelque chose qui a bougé dans 10 ans quand on fera le bilan de ce qui s'est passé et qui a sorti la tête de l'eau, qui a construit une carrière, qui a émergé, qui est resté. Voilà, je pense qu'on pourra se... Mais il faut qu'on soit puissants ensemble et forts pour affronter ces forces-là, quoi.
Merci beaucoup. On pourrait parler des heures ensemble, je le sais, mais le temps tourne. Un petit mot de fin, chacune d'entre vous, peut-être quelle est votre actualité? Qu'est-ce qu'on peut attendre parmi vos projets de voir prochainement? Eusanne?
Oh là là. Je ne sais pas quoi dire parce que je n'aime jamais parler de mes projets. Pas par superstition, hein, c'est simplement parce que chaque projet est toujours un combat et bien sûr que j'en ai, je peux citer des films, des projets, j'en ai plein que je n'ai pas pu monter pour des raisons justement, toutes ces raisons dont on vient de parler, même si même si bon, je suis Suzanne Palsy qui a fait ci, qui a fait ça. Bon, ça bon, voilà. Mais il y a Suzanne Palsy qui fait un certain type de film et qui peut ne pas plaire quoi, au moment. Et donc, j'ai effectivement des projets. J'ai un projet sur la Seconde Guerre mondiale, mais vu, c'est le point de vue des Antilles, quoi, voilà, et qui se tournera donc entre la Martinique et puis la France, le sud de la France. Bon, j'ai un projet sur mon fameux projet dans De Cœur sur cette pilote noire. Premier pilote femme du monde noir, Missy Coleman, que j'ai justement découverte grâce à Kathleen Colin, hein, c'est pourquoi je. Et puis j'ai deux comédies, dont une comédie qui serait tournée dans le sud de la France, voilà. Et une autre comédie française qui serait tournée donc aux États-Unis, voilà, aux États-Unis entièrement, aux États-Unis, mais avec c'est une production française avec des Noirs, avec tout le monde, avec le tout le monde.
Merci, ben on espère voir ça.
Voilà. Moi, je vais accompagner, je l'espère, et je m'en réjouis d'avance, donc le documentaire que je viens de terminer qui s'appelle Nous et qui est une adaptation d'un livre de François Maspero, Les passagers du Roissy Express, une espèce de traversée de la société française par le biais d'une ligne de RER qu'on traverse du point nord à son point sud et qui voilà, traverse toutes les strates de la société française. Donc ça, c'est un film qui sortira l'année prochaine, en 2021, je pense, et que j'espère accompagner. Et sinon, bah, je suis en pleine préparation d'une fiction que je vais m'apprêter à tourner aussi l'année prochaine. Donc voilà, une actualité bien chargée.
Si le Covid n'empêche pas les tournages.
Bonne chance, Alice.
Et je suis ravie vraiment ça, de cette discussion-là. Et souvent, j'hésite à t'appeler.
Voyons-nous, tu sais, n'hésite pas, s'il te plaît.
Bah, je t'appellerai, on va poursuivre la discussion en off.
Il faut partager la France, la France, la force et la France aussi. Merci mille fois, Suzanne Palsy. Merci, Alice Diop. Merci à Brigitte Orchid, qui est Head of Industry à Doc Leipzig. Merci à Annelise Redfeld de Doc Leipzig qui a permis de produire ce podcast. Merci à Tamba Bebe, le curator, qui a permis aussi l'organisation de ce podcast. Merci à toutes les deux et on a hâte de voir vos films sur les écrans.
Merci beaucoup. C'était génial. Merci à vous.
À bientôt.
Ciao. Salut.